Hébreux 6, verset 9, nous dit ceci. Même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre, le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom et les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve de même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Amen. Alors, vous le savez, nous le vivons au quotidien. Nous sommes dans un contexte quand même assez anxiogène. Et d'après nos savants, nos spécialistes, mais surtout la parole de Dieu, ça ne va pas s'arranger. Ça ne va pas s'arranger. Hein, on nous parle du pire, on parle de crise, qu'elle soit économique, sanitaire, sociale, énergétique, etc., etc. Tout cela nous impacte, qu'on le veuille ou pas. Nous sommes quand même impactés par cette air ambiant, cet air qui est anxiogène, cet esprit là aussi qui est là. Mais ce texte nous rappelle ce matin que malgré ce marasme ambiant que nous pouvons vivre, que nous vivons, eh bien nous avons la meilleure part. Nous avons la meilleure part, celle qui est favorable au salut. Et pour mieux comprendre ce matin cette réalité, ces belles réalités, on va se servir simplement de trois expressions qui ont été traduites comme cela en français, hein, mais qui sont quand même assez proches de l'original. Ces trois expressions, c'est « même si », c'est « en effet », et puis c'est « ainsi ». Voilà, le plan, voilà, c'est un petit peu le plan ce matin que je vous propose, même si, en effet, et puis il y a aussi ce ainsi, concernant la meilleure part, hein, celle que Jésus bien, nous promet, celle qu'il nous donne. Alors, Hébreux 6, 9 nous dit, même si nous parlons ainsi, bien-aimés, et nous sommes convaincus qu'en ce qui nous concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. Même si cette locution introduit une notion de rupture avec ce qui a été vu précédemment, hein, on pourrait dire, quel que soit ce qui a été dit précédemment, eh bien, ce qui suit, c'est une vérité. Voilà, hein, même si. Il y a un chant qu'on chante souvent, qui est un beau chant, « Même si les océans se déchaînent », qu'est-il dit après? Vous vous souvenez de ce chant? « Je les traverserai avec toi ». Ça veut dire que quelles que soient les tempêtes que je vais traverser, eh bien toi, tu m'assures toujours de la présence. Même s'il y a de l'opposition, même s'il y a des tempêtes, tu me fais une promesse, c'est d'être avec moi dans la même barque. Et ce même si, bien sûr, eh bien nous parle d'une rupture. Et on pourrait dire ce matin que le meilleur qui est en Jésus-Christ exprime d'abord une rupture, une séparation avec ce qui nous entoure, avec ce que le monde nous propose, avec ce que le monde voudrait aussi nous imposer. Il y a une rupture. Pour avoir, allez, un exemple que je connais bien, la meilleure part d'un gâteau, eh bien, il faut que cette part soit séparée du gâteau, il faut qu'elle soit coupée, hein, il faut qu'elle soit séparée, quelle que soit la définition qu'on donne à la meilleure part. Alors pour certains, Enzo, c'est quoi toi la meilleure part pour toi? Dis-moi voir. Ah bah, on parie pas, hein, les paris chrétiens, c'est pas... Mais j'aurais parié, c'est la plus grosse, bien entendu, mais oui. Hein. Et toi Chloé, la meilleure part, c'est aussi la plus grosse ou... Non? C'est la plus grosse aussi, voilà. Hein. Alors... Je vais t'apprendre ça, que pour nous, à un certain âge, c'est la plus petite, tu vois, hein, parce que, bah oui, le foie du mâle, etc., bon, pour d'autres, c'est la plus cuite, la plus moelleuse, etc., mais chacun a une définition de la meilleure part, et t'as raison, reste pour l'instant avec la plus grosse part, moi aussi, hein, c'est la meilleure, en tout cas, c'est ce que je pense. Mais pour que cette grosse part, eh bien, tu puisses l'avoir, il faut qu'elle soit séparée du gâteau. Eh oui, il faut qu'il y ait une rupture, il faut qu'elle soit séparée, qu'elle soit proposée, et ensuite tu pourras profiter de cette grosse part. Dans 2 Corinthiens 6, 14, eh bien, il est rappelé ceci, et la meilleure part en Jésus, avec Jésus, nous parle de rupture. nous parle de séparation. On ne peut pas avoir cette meilleure part s'il n'y a pas eu dans nos vies cette séparation. 2 Corinthiens 6, 14 l'exprime de cette manière. « Ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Amen. » L'auteur des Hébreux, si vous relisez un petit peu avant, il explique juste avant que certains ont eu part au don du Saint-Esprit, que certains ont eu part à la parole de Dieu, ils ont goûté à la parole de Dieu. Et puis ils sont tombés, ils se sont éloignés de nous. Mais il dit ceci, que pour les autres croyants, finalement, bien, chacun demeure responsable pour lui-même. Ce n'est pas parce que certains bien, ont goûté au salut et puis qu'ils sont retournés en arrière qu'automatiquement bien, ce sera toujours la même chose pour chacun d'entre nous. Ce serait terrible. Même si, effectivement, autour de nous, nous pouvons peut-être pleurer parce qu'il y a des frères et sœurs qui ont bien commencé, qui pour l'instant bien, sont repartis en arrière, même si ces choses existent, sont une réalité. Eh bien, l'auteur des Hébreux rappelle que, au contraire, nous avons choisi la meilleure part. Nous avons choisi la meilleure part, nous connaissons cette meilleure part, parce qu'il y a eu une séparation avec notre tel esprit de ce monde, avec le péché, avec l'adversaire de nos âmes, il y a eu une séparation. Et la meilleure part nous parle de séparation, nous parle de rupture. Alors pour nous, eh bien, quelle est-elle, cette meilleure part? Oh, il y a deux textes que vous connaissez, hein. Qui avait choisi la bonne part dans l'Écriture, vous en souvenez? Moi, je confonds tous les deux, mais c'est bien Marie. Luc 10, 38 nous rappelle ce beau texte. Elle nous dit ceci, « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus, écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survient et dit, « Seigneur, ça ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. Amen. » La bonne part pour ici Jésus, c'est d'écouter sa parole, dans l'intention de la vivre, dans l'intention de la mettre en pratique. Le psaume 119, 57 nous dit, « Ma part éternelle, je le dis, c'est d'obéir à ta parole. » C'est de mettre en pratique ta parole, c'est d'entendre, c'est d'écouter pour vivre cette parole. Et cette bonne parole, cette bonne part, eh bien Jésus dit, elle ne te sera pas enlevée. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu demeure éternelle. Parce que lorsqu'elle est semée dans notre cœur, c'est comme si elle nous emportait avec elle dans l'éternité. Elle ne nous sera jamais ôtée. Amen. Et ce matin, eh bien, nous choisissons, nous aussi, de nous tenir dans la présence de Jésus, d'entendre, de vivre sa parole. Ça, c'est une bonne part. Et la parole de Dieu n'a rien à voir avec ce monde. Elle est séparée, elle est coupée, il y a une rupture. Mais quelle grâce ce matin, hein, chaque jour, d'être nourri par la parole de Dieu. Et puis, il y a un autre personnage aussi qui, à un moment donné, eh bien, c'est Pierre, hein, c'est dans Jean 13, verset 4. Vous connaissez ce moment où Jésus se ceint les reins d'un linge et puis il va laver les pieds de ses disciples. Et là, il y a un dialogue qui s'instaure avec Pierre. Et voilà ce qu'il est dit. Verset 5. « Il versa de l'eau dans un bassin, il commença à laver les pieds des disciples, à les essuyer avec du linge, avec le linge qu'il avait autour de sa taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, il comprend vite Simon, hein, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus dit, « Celui qui est béni n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, etc. etc. » C'est une part qui nous vient de Jésus. C'est une part qui nous est accordée, qui nous est donnée, qui nous est partagée de sa part, mais qui va être aussi vécue avec lui. Jésus ne distribue pas simplement ce matin des, je vais dire ça comme ça, des parts de bénédiction, mais il nous permet de les vivre avec lui, de les vivre avec lui. Il y a une différence entre recevoir une part de gâteau de la part du président de la République, ce qui serait déjà quand même extraordinaire, et puis de la manger avec lui. Il y a une autre dimension. Bon, notre président est généreux, il nous envoie une part, on la reçoit par colis, Simo, là, etc., et on est fiers. Le président a pensé à nous, mais il ne la mange pas avec nous. Alors qu'ici, eh bien, Jésus dit à Pierre, mais je veux partager avec toi. C'est autre chose que d'être invité à l'Élysée et puis d'entrer dans ce palais, etc., et là, de partager une part de gâteau avec le président. C'est une autre chose. Il va y avoir un dialogue, il va y avoir un échange, on va partager, on va être honoré. Et ce matin, eh bien, c'est cette idée. Eh bien, il y a pour nos cœurs une belle réalité spirituelle. Jésus veut partager avec nous. Pas simplement nous donner, nous communiquer, mais il veut partager avec nous. Il y a une réalité de la présence de Dieu. La rupture d'avec ce monde, d'avec ses principes, d'avec Satan, d'avec le péché, nous introduit dans la présence de Jésus. Et ainsi, bien, cette réalité, ce matin, nous aide à saisir cette bonne part, cette meilleure part. Le meilleur étant Jésus-Christ dans notre quotidien, dans nos questionnements, dans nos faiblesses, dans nos peines, dans nos douleurs, dans nos souffrances. 2 Corinthiens 1,7 nous dit ceci. « Notre espérance à votre sujet est ferme, puisque vous avez aussi part aux souffrances, vous aurez part aussi au réconfort. » Nous aurons part au réconfort. Alors oui, ce matin, la meilleure part, la bonne part, la part excellente, nous parle d'une rupture, nous parle d'une séparation pour goûter réellement à la présence de Jésus-Christ. L'auteur des Hébreux continue, et puis Hébreux 6, 10, versets donc 10 et 11, on va relire ce texte. Eh bien, voilà ce qui nous est dit, donc, introduit par une autre locution, en effet. Et Hébreux 6, 10 nous dit ceci. « En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre, le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Amen. En effet, introduit une confirmation, une explication qui va attester d'une vérité. On pourrait dire, avec certitude, je vous confirme que. Il y a un lien avec la meilleure part, bien sûr, que nous avons en Jésus. Alors, l'expression ici ce matin pour nous, finalement, quelle est la vérité qui est exprimée? Quel est le rapport entre la part de Jésus, la meilleure part en Jésus? Eh bien, tout simplement que cette part va s'exprimer par notre amour. J'ai relu le texte, je pensais au début que l'auteur des Hébreux parlait de l'amour de Dieu. Mais il parle bien de notre amour. On va expliquer, bien sûr, mais il parle bien du travail de notre amour. Il dit, vous avez démontré votre amour pour son nom. Alors, 1 Jean 4, 19 nous rappelle ceci. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Parce qu'il nous a aimés le premier. L'amour divin dans nos vies n'est pas unilatéral. Ce n'est pas toujours de connaître, de savoir et de dire, bien, Dieu m'aime, Jésus m'aime, il vous aime, bien sûr. Mais Dieu attend une réponse à son amour. Dieu attend un retour. L'amour, comme dans un couple, comme dans une famille, n'est pas unilatéral. Il n'y a pas une personne dans la... Oh là, je crois qu'il y a eu un choc. Bon, ça arrive, hein. Mais l'amour de la maman va consoler rapidement l'enfant, vous allez voir. Hein. Et ça, c'est l'amour du père aussi pour nous, qui nous console rapidement quand il y a des chocs. Parce que l'amour n'est pas unilatéral. Il n'y a pas dans une famille quelqu'un qui se dit, voilà, eh bien, je suis le patriarche ou une société matriarcale, c'est la grand-mère, l'arrière-grand-mère qui aime tout le monde. Et puis après, bien, non, c'est unilatéral. C'est, voilà, les enfants, les parents, etc. Il y a un amour qui s'échange, qui se partage. L'amour, je vais dire ça comme ça, exige une réciprocité. Autrement, il n'y a pas d'amour. On peut réfléchir, mais l'amour demande la réciprocité. Alors, qu'est-ce qui nourrit cet amour ? Comment est-ce que ce matin, moi aussi, bien, je peux continuer donc à exprimer mon amour pour Dieu, celui qu'il m'envoie, comment est-ce que je peux le renvoyer ? Qu'est-ce qui fait que ce matin, bien, je peux grandir dans cet amour ? Eh bien, c'est la prise de conscience, c'est la conviction forte et profonde de la preuve d'amour que Dieu a eue envers nous au travers de l'œuvre de la croix. Ce qui est incomparable, ce qu'on ne peut pas mesurer, ce que Christ a vécu pour chacun d'entre nous à la croix. Romains 5,8 nous dit ceci, « Mais Dieu prouve son amour. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et puis on se souvient de ce temps de repas où Jésus est invité par un pharisien, il s'appelle Simon. Et lors de ce repas, entre hommes, pour bien mettre le contexte, eh bien une femme ose, j'allais dire, s'introduire, se mettre aux pieds de Jésus, et puis là, eh bien, laver ses pieds loin de pas. Enfin, je veux dire, c'est un véritable scandale dans cette société à l'époque, où une femme se permet de tels gestes et de s'introduire dans la présence de ces hommes. Et Simon va avoir cette pensée, mais s'il était vraiment prophète, il saurait de quelle espèce, on est compte, hein, de quelle espèce est cette femme. Bien, on referme la parenthèse, mais ça n'a pas échappé à Jésus, il a une révélation, un don là, et donc il va interpeller Simon, et puis il va lui parler de la dette remise. Et on va demander ensuite la réponse aux enfants ce matin qui sont avec nous. Je vous pose cette question, imaginez que vous deviez, allez, 50 000 euros, pas mal à 50 000 euros, hein. On achète quoi avec 50 000 euros les enfants ? Enzo, une télé. Ah oui, oui, tu peux y aller là. Tu peux même mettre une voiture autour de la télé, par exemple. Hein. Une télé à 50 000 euros, t'as raison. Hein. C'est une bonne télé. Alors, qu'est-ce qu'on achète les enfants là-bas ? 50 000 euros, qu'est-ce que vous achèteriez avec ? 50 000 euros. C'est énorme, hein, vous n'avez pas idée. Hein. Bon, des bonbons et des bonbons pour papa et maman. Hein. Du chocolat ou du cacao. Voilà, j'ai retenu. Bien, mais... Et alors, j'ai écouté, bah, tu me dois 50 000 euros... Bah écoute, c'est bon, c'est cadeau, c'est pour toi. Extraordinaire, hein ? Et puis là, il y a quelqu'un qui vient qui me doit 5 euros. 5 euros. Bon, 5 euros, la télé, 5 euros, ça va être dur. Hein, pour, bon, 5 euros, c'est une boisson, c'est même pas un McDo, 5 euros, non ? Si ? Si, quand même, hein, c'est un petit McDo, alors, hein, 5 euros. Hein. Bon, c'est, t'as la paille et le gobelet, voilà. Et donc, 5 euros, bon, voilà. 5, et je te dis, ben écoute, voilà, je te fais grâce des 5 euros. Et moi, je vous pose la question, à votre avis, qui va être le plus reconnaissant ? Celui à qui on a dit, tiens, je te donne tes 50 000 euros, ou à celui qu'on a dit, je te donne tes 5 euros ? Voilà, je te fais grâce, je te fais... c'est cadeau. À votre avis, qui va être le plus reconnaissant ? Qui va sauter de joie le plus haut ? Enzo ? Eh ben oui, eh oui, c'est celui à qui on a dit, bah, écoute, 50 000 euros, ben oui, lui, il va sauter de joie. Hein. Bon, l'autre, 5 euros, etc. Eh bien, c'est à peu près ça que Jésus va... Sauf qu'il n'y avait pas les McDonald's à l'époque, bien sûr. Mais il va parler à Simon, il va dire, mais, et Simon va faire la même réponse que toi, que vous. Et oui, c'est celui à qui on a mis la plus grosse dette qui va être le plus reconnaissant. Et le cadre ici, c'est le pardon. Et je crois que ce matin, ce qui nourrit notre reconnaissance, notre amour envers Jésus, ce qui nous l'aide à l'aimer encore davantage, de mieux en mieux chaque jour, c'est cette prise de conscience, eh bien, du prix que Christ a payé pour donner sa vie, pour que nous soyons pardonnés de nos péchés et que désormais nous ayons une entrée dans le ciel, dans l'éternité. Amen. Et plus on va prendre conscience de cela, plus notre amour va être nourri et plus on va l'aimer. Et oui, je veux dire, la manière dont il nous a tirés de notre ancienne vie, c'est, et plus on vieillit, plus je pense on va le réaliser davantage. Et ainsi, ce matin, ce qui nourrit notre amour, c'est cette prise de conscience, cette réalité de la dette immense que Christ, eh bien, a payée à notre place. Et ce n'est pas en euros, bien sûr, hein, que ça se compte. C'est cette belle réalité que nous ne sommes plus condamnés à vivre dans l'éternité, mais que désormais, bien, nous irons avec Jésus partager son éternité. Amen. Ainsi, plus je connais ça, eh bien, plus je vais l'aimer, plus, eh bien, je vais me sentir aimé, plus je vais le connaître, et on grandit, et on grandit, et on construit, bien sûr, cet amour. Alors, comment se manifeste cet amour? Eh bien, ici, il est question des œuvres et puis des preuves. Voilà, il est question du travail de notre amour, et puis vous avez prouvé, vous avez démontré comment cet amour se manifeste-t-il. Eh bien, vous connaissez tous 1 Corinthiens 13, hein, versets 4 à 7, pour comment cet amour doit-il se manifester dans nos cœurs, dans nos vies. Eh bien, on le relit. L'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Ainsi, l'amour se cultive, il se développe, hein, il grandit. Et Paul, eh bien, pour l'exprimer aussi aux Corinthiens, hein, utilisera également une autre expression. Il dira, mais Corinthiens, nous vous avons largement ouvert notre cœur. On a chanté tout à l'heure, hein, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre mon cœur. Et on dit de quelqu'un qui est généreux, il a un cœur en or. Vous connaissez l'expression, hein, voilà. Et ouvrir notre cœur, vous n'y êtes pas à l'étroit. Et le travail de cet amour va nous faire porter des fruits, hein, des preuves, et ainsi nous permettre de grandir. Et puis, qu'apprend-on de Dieu au travers de cet amour ici? Eh bien, qu'il n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail de notre amour. Si on remet la phrase dans le sens direct, il est juste pour se rappeler. Dieu est juste pour se rappeler. Dieu a une bonne mémoire, et Dieu est juste. Et je cite souvent donc, Dieu se souvient ce matin de tout ce qui émane de notre amour pour lui, que ce soit en pensée, que ce soit en action, que ce soit en parole, que ce soit public, que ce soit secret, peu importe. Dieu est juste pour se rappeler de ces choses. Dieu est juste pour se rappeler ces choses. Et vous connaissez également ce beau texte de 1 Corinthiens 15, 58 qui nous encourage justement bien à développer cet amour. Mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat, n'est pas vain dans le Seigneur, parce que Dieu est juste pour se rappeler de notre amour, du travail de notre amour, de cet amour que nous exerçons, que nous vivons les uns envers les autres, mais également envers notre prochain. Et puis je termine, Hébreux 6, 12 nous dit ceci, il y a dernier adjectif, et voilà ce qui est dit dans Hébreux 6 et au verset 12 concernant cette dernière pensée sur la meilleure part que nous avons en Jésus-Christ. Il dit ceci, « Ainsi vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui par la foi et la patience reçoivent l'héritage promis. » Ainsi va introduire une conséquence, une suite. C'est un lien avec ce qui précède, ou une autre proposition. Prends un billet de première classe, ainsi tu pourras voyager plus confortablement. Voilà, il y a une conséquence, il y a un lien. Et la meilleure part ce matin, eh bien, elle est en Jésus, et qui est en Jésus devient désormais pour nous un appui, devient pour nous une ressource, un réservoir, pour nous permettre de persévérer dans la foi. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré nos faiblesses et malgré tout ce qu'on pourrait ajouter, et Jérémie nous l'a rappelé ce matin, quand je pense à ma détresse, etc., malgré tout, eh bien, cette meilleure part, c'est une réserve, c'est un appui pour nous permettre de persévérer dans la foi. Il y a un vieux chant que parfois je chante, « Vers qui se tourner ?» Quand la source des larmes est tarie. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment un vieux chant, il date du siècle dernier, hein, donc vous voyez. Mais ce chant nous parle justement, bien, et la suite nous dit, mais nous nous tournons vers Jésus, parce que cette bonne part demeure une source inépuisable, un appui qui nous permet de persévérer après avoir tout surmonté. Rappelons-nous comment Dieu va pourvoir aux besoins de son peuple dans le désert. C'est dans 1 Corinthiens 10, 3, 4, il est parlé d'une nourriture spirituelle, et pourtant cette nourriture c'était bien la manne, il la mangeait, mais elle était d'origine spirituelle. Et puis il nous est parlé d'un breuvage spirituel, et c'était bien de l'eau. Il est question du rocher qui était Christ qui suivait le peuple. Et ainsi, dans ce désert, pendant 40 ans, eh bien, le peuple a été alimenté, a pu s'appuyer sur la manne, et puis sur ce... on a du mal des fois, on se dit, bah oui, ils ont trouvé de temps en temps quelques puits comme ça dans le désert, où Dieu leur a fait grâce, certainement, mais imaginez quand même, c'est des centaines de milliers de personnes, peut-être même du bétail, et comment voulez-vous abreuver dans le désert pendant 40 ans ces centaines et ces centaines de milliers d'hommes et de femmes ? Il nous a dit quand même, alors ça nous dépasse. Donc certains ont interprété cette parole, ce rocher qui les suivait, bien oui, Dieu avait pourvu à tous les endroits où le peuple allait stationner des sources d'eau. Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas cette réalité aussi, pour moi, qui me dérange pas, que comme la Shekinah qui suivait, qui conduisait le peuple, il y avait un rocher qui suivait, qui se déplaçait avec le peuple. Ça me dérange pas, cette interprétation également. Mais ça veut dire que, eh bien, Christ, là aussi, était au milieu du peuple et puis suivait pour répondre aux besoins quotidiens de tout ce peuple, de ces milliers de personnes, de ces milliers d'enfants et certainement également ces troupeaux qui pouvaient suivre. Ils ont tous mangé à la même nourriture. La bonne part, la meilleure part ce matin, elle est en Jésus. C'est un réservoir, c'est une promesse. Et vous, frères et sœurs, qui êtes fatigués, qui êtes éprouvés, qui êtes souffrants, qui vous questionnez, eh bien, ce matin, cette meilleure part, cette part excellente, cette bonne part qui est Jésus, qui est en Jésus, qui est avec Jésus, devient un appui, une source de bénédiction pour chacun d'entre nous. Amen. Quel que soit le moment que nous pouvons traverser. Oh, j'aime bien l'expérience d'Élie. Il nous ressemble tellement, Élie. C'est dans 1 Roi 19 qu'on trouve ce... on le voit encore quelques jours auparavant, victorieux sur cette montagne. On connaît tous ce récit. Il redescend dans la vallée et ensuite c'est la fuite dans le désert, devant quelques paroles de Jézabel. Et à partir du verset 3, il est dit ceci. Voyant cela, Élie se leva, il partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beth-Sheba, une ville qui appartient à Juda, il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Puis il s'assit sous un genêt, il demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends-moi la vie, je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha, il s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange !» Élie regarda et vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea, il but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, il mangea, il but, puis avec la force qu'on lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Amen. Par deux fois, cet ange va exhorter Élie, eh bien, à se lever et à manger. Et là, il y a une nourriture extraordinaire, une nourriture spirituelle qui vient de Dieu. Il y a ce gâteau et puis cette cruche d'eau. J'aimerais connaître la recette de ce gâteau, moi, en tout cas. Mais il est d'origine spirituelle. Et puis cette eau, là aussi, un ange a permis qu'elle soit en plein désert. C'est un miracle. Et par deux fois, eh bien, Élie va être exhorté à se lever, à manger, à boire. Et avec cette nourriture, il va marcher 40 jours. Et l'Écriture dit 40 nuits. J'ai l'impression que c'est du non-stop. 40 jours, 40 nuits pour arriver à la montagne de Dieu. Extraordinaire. La source, la réserve à ce moment, l'appui que Dieu lui a donné, dans sa faiblesse, dans ses ténèbres, dans son envie de mourir, eh bien, Élie a été renouvelé par la grâce de Dieu. La bonne part, la meilleure part qui est en Jésus, ce matin nous assure de ressources surnaturelles, spirituelles, adaptées à nos besoins du moment, qui nous dépassent, mais qui sont une belle réalité. Amen. Alors ce matin, eh bien, que Dieu nous aide à nous réjouir, nous avons la meilleure part. elle est en Jésus-Christ. Cette part nous parle, oui, de rupture, elle nous parle de séparation avec le monde, mais on ne peut pas être assis entre deux chaises, on ne peut pas avoir les pieds comme cela, mais il nous faut ce matin réaliser que cette bonne part, eh bien, c'est une belle réalité pour nous. Et puis elle nous rappelle que Dieu se rappelle de notre amour, il n'est pas oublieux, il est juste pour se rappeler de notre amour. Et puis cette dernière pensée pour nous ce matin, eh bien, c'est une source inépuisable, c'est un appui extraordinaire dans nos faiblesses, dans nos moments de difficulté, dans nos pèlerinages ici-bas, pour être abreuvé, pour être renouvelé. Amen, par le nom de Jésus. Est-ce qu'on pourrait prier quelques instants ce matin? Il y a peut-être des bien-aimés ce matin là aussi qui vivent ces temps difficiles, dans ce contexte particulier, peut-être un moment difficile personnel. Eh bien, rappelons-nous cette exhortation du livre des Hébreux, nous avons la meilleure part. Amen, nous avons la meilleure part. Amen. Merci Seigneur ce matin pour ces moments de louange, d'adoration. Merci Seigneur parce qu'une fois de plus, ces temps nous aident à avoir les yeux fixés sur Jésus, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Merci Seigneur de nous avoir rappelé que nous avons désormais choisi la bonne part, celle qui ne nous sera jamais ôtée. Et nous voulons prier en particulier ce matin pour des bien-aimés qui sont dans l'épreuve, qui sont dans le questionnement, qui sont peut-être dans le découragement tout simplement et qui se posent beaucoup de questions. Nous te bénissons Seigneur parce que tu es celui qui relève et comme pour Élie, Seigneur, nous voulons croire qu'il y a des étapes spirituelles particulières où nous avons besoin d'une nourriture spirituelle, nous avons besoin d'être abreuvés spirituellement pour repartir, pour monter à cette montagne, Horeb, où nous pouvons rencontrer Dieu. Seigneur, que ta main soit sur ces bien-aimés ce matin, dans le beau nom de Jésus, que ta grâce leur soit communiquée et qu'au nom de Jésus-Christ, maintenant, ils puissent être renouvelés, être fortifié, pouvoir goûter tout à nouveau à cette part excellente, à cette meilleure part, celle qui ne sera jamais ôtée, celle qui nous fait des promesses éternelles pour vivre avec toi dans ta présence. Fais grâce, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, qu'il y ait une difficulté, un souci, un empêchement, qu'il soit moral, physique, spirituel, psychologique, rien n'est impossible à notre Dieu. Dans le beau nom de Jésus, que ta lumière nous soit communiquée à nouveau, qu'elle révèle ta majesté, qu'elle révèle ta beauté, qu'elle révèle à nouveau ta bienveillance, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et pendant que nous sommes devant le Seigneur, que nos yeux sont fermés, il y a peut-être des bien-aimés ce matin qui, eux aussi, ont besoin tout à nouveau de goûter à cette bonne part, d'être renouvelés dans leur force morale, physique et spirituelle, de pouvoir à nouveau, comme Élie, bien, reprendre la marche parce qu'il y a eu des blessures, parce qu'il y a eu des moments difficiles. Eh bien, le Seigneur ce matin nous dit, voilà, il y a une cruche d'eau, voilà, il y a un gâteau particulier, lève-toi. Mange, bois, et puis reprends courage. Mon frère, ma sœur, mon enfant, reprends courage, parce que je suis avec toi, parce que je connais tes souffrances. Mais, mon enfant, je te rappelle, tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la meilleure part, celle qui ne te sera jamais ôtée. Celle dont l'adversaire ne pourra jamais te priver. Et celle dont ce monde ne pourra jamais goûter, parce que tu as été séparé. Désormais, tu m'appartiens. Est-ce qu'il y a des bien-aimés ce matin qui, en voulant se lever simplement là où vous êtes, voudraient dire, Seigneur, eh bien oui, j'ai besoin de cette bonne part. Oui, je vous ai vu. D'autres peuvent lever aussi la main là où vous êtes et dire, Seigneur, oui, je vous ai vu. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Oui, je vous ai vu. Oui, je vous ai vu. Oui, oui, je t'ai vu. Que le Seigneur te bénisse. Y a-t-il encore peut-être quelqu'un qui ce matin veut dire, Seigneur, oui, je veux à nouveau goûter à cette par excellence, à cette bonne part, ta présence. Oui, je t'ai vu. Que le Seigneur te bénisse. Peut-être notre frère Frédéric pourrait prier ce matin pour ses bien-aimés qui, ce matin, bien, renouvelle leur appétit spirituel avec le Seigneur. Amen. Une bonne part, la meilleure part. Merci Frédéric, si tu veux prier pour ses bien-aimés.